gardien de mon cœur. Alors, les enfants, vous allez me suivre aussi, hein? Ça marche, les enfants, vous êtes avec moi?
Oui.
Donc, je vais faire vite, concis. Les adultes, accrochez-vous. Comme ça, il y a pour tout le monde et on arrive à tenir nos enfants aussi. Ça marche? Alors, on va tout de suite prendre, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Proverbe, chapitre 4, versets 21 à 23. Vous voyez, Sandy, elle a tout de suite remis le champ parce qu'elle aussi, elle est d'accord avec moi. Un champ de plus, c'était OK pour elle. Alors, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Est-ce que tu peux mettre le verset 20? Parce que du coup, ça sort du contexte. Je suis désolé, mais ça coupe. Désolé, Sandy. Hein. Je suis arrivé tout juste à 10 heures, du coup. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends ton oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Alors j'aime beaucoup ce proverbe, on n'a pas le temps de tout lire, c'est le chapitre 4. Et donc, c'est les paroles d'un père à son fils. Et donc, vous voyez que c'est tout des conseils, d'accord? Et vous savez que les proverbes ont été écrits en majorité par Salomon, un homme rempli de sagesse. Et donc, ça, c'est des paroles de sagesse pour nous. C'est comme si Dieu le Père nous donnait des conseils. Et au début, eh bien, il nous dit, il faut que tu gardes mes paroles. Il faut que tu gardes mes paroles. Et l'apogée pour moi de ce proverbe, chapitre 4, c'est donc le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Et chaque mot est important, chaque mot est intéressant, chaque mot nous interpelle. Et le premier, c'est garde. Et moi, quand je lis ça, je me dis waouh, c'est intéressant. Parce que souvent on se dit, Dieu il fait les choses pour moi, Dieu il me protège, Seigneur protège-moi, Seigneur c'est toi qui fais tout, et puis moi je suis. Et là il est écrit, garde. Ça me parle et ça me dit, Alex, c'est toi qui es le gardien. C'est toi qui as les rênes. C'est pas Dieu là. C'est le Père qui dit au Fils, c'est toi qui dois garder les choses. Garde ton cœur. Donc le premier point, garde. Alors tu peux répéter après moi, je suis le gardien de mon cœur. Ah, c'est timide ça. C'est en voit qu'il y a les masques. Ah, c'est les masques ça. Bon, réessaye. Je suis quoi?
Je suis le gardien de mon cœur.
Voilà, c'est mieux. Donc c'est le « je », c'est moi. C'est le « moi ». Et le cœur, qu'est-ce qu'on entend par cœur? Parce que je suis le gardien de mon cœur. Ça veut tout et rien dire. Quand on lit ça comme ça, qu'est-ce que c'est le cœur? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce que je dois garder? Alors le cœur, eh bien ici, si vous allez dans la traduction, au niveau, parce que le cœur dans la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ça peut avoir différentes significations, mais pour nous, c'est toujours le cœur. Mais ici, le cœur, il s'agit de l'homme intérieur. Il s'agit de ce qui se passe en moi. Il s'agit de tout ce que les gens ne voient pas. Tout ce qui tourne là-haut dans la tête, tout ce que je peux penser, tous mes raisonnements, toute mon intellectualité, tous mes affects, tout ce qu'il y a au fond de moi que les gens ne voient pas, ça ici, eh bien Salomon nous parle de ce cœur-là. Et c'est ce qui fait de nous des humains, tant plus que toute autre chose. Ça veut dire que s'il dit ça, si ces mots sont employés, c'est que c'est du sérieux. Alors là, je me dis, il faut que je comprenne que ça, c'est important, plus que toute autre chose, au-delà de mon travail, au-delà de ma famille, au-delà de tout ce que je peux avoir, au-delà des circonstances de la vie, il faut que je garde l'homme intérieur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Tout ce qui peut nous environner, tout ce qui peut tourner autour de nous, tout ce qui peut nous influencer, eh bien, il faut qu'on préserve l'homme intérieur de tout ce qui est fluctuation autour de nous. Et là, il termine avec le car. Là, on a le pourquoi. Pourquoi Salomon devrait garder ces choses-là? Pourquoi Dieu, je dois prendre soin autant de l'homme intérieur? Pourquoi? Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. On aime bien dire que les sources de la vie, c'est Dieu, c'est lui qui envoie la vie, il est la vie. Et là, on nous dit, non, c'est dans toi se situent les sources de la vie. Et il faut que tu gardes ton cœur, parce que si tu ne les gardes pas, il n'y a plus de vie, c'est mort. C'est ça que ça veut dire. C'est de lui que viennent les sources. Alors on va s'arrêter 2 minutes sur le mot source. Et le mot source ici, il veut dire, il nous apprend qu'il y a une question de profondeur. Une question de profondeur, une question de limite, une question de frontière. Et en fait, le mot source ici, c'est la limite entre la vie et la mort. C'est le fond du fond. C'est j'arrive à la frontière. Imaginez, on traverse toute la France, vous commencez du sud de la France, et puis vous remontez, vous vous dites, il faut que j'explore toute la France, tout le territoire, et quand j'aurai atteint tout le territoire, je suis français, je ne peux pas aller plus loin, on imagine qu'on ne peut pas aller plus loin, eh bien je vais arriver à la frontière. C'est-à-dire que j'ai découvert l'entièreté de ce qu'il y avait à voir. Et là, on parle de la limite. Et ensuite, on parle de la vie. Et à nouveau, la vie, ça concerne l'homme. Ça ne concerne pas la vie de Dieu en nous, l'Esprit Saint qui vit en nous. Ça concerne la vie de l'homme. D'accord ? Donc, c'est de lui que viennent les sources de la vie humaine. Garde ton cœur au-dessus de toute chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ça veut dire garde ton cœur parce que tu as des choses à explorer. Et si tu veux aller au bout de ton potentiel humain, si tu veux aller au bout de tout ce que tu es capable d'entreprendre, de tout ce que tu es capable de faire, de tout ce que tu es capable de connaître sur toi-même, eh bien, c'est possible. C'est possible de te connaître au mieux, de te connaître toi, de connaître ton être intérieur, de savoir comment tu fonctionnes, de savoir comment tu réagis, de savoir quelles sont tes faiblesses, de savoir quelles sont tes forces. Et il faut que tu gardes ton cœur, parce que c'est de là qu'il va sortir des choses. Et quelque part, ce sera soit la vie, soit la mort. Ça roule ? Vous me suivez ? Donc c'est intéressant, parce que c'est toujours une question ici d'homme, de notre humanité, de notre qualité, d'un être à part entière dans la création de Dieu. C'est « je vous ai fait d'une telle manière, je vous ai donné deux mains, vous avez appris à vous en servir. » Quand vous regardez un enfant, eh bien, il passe toute une partie de sa vie à comprendre son corps. Une fois qu'il a compris son corps et qu'il est bien avec papa, maman, il découvre que c'est génial la vie. Il y a tout ce qu'il veut. Le biberon arrive direct dans la bouche. Ensuite, les cuillères, elles arrivent direct dans la bouche. Tout est facile. Ensuite, l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans la voiture, on les dépose à un endroit, tout est génial. Et puis, à un moment donné, papa et maman, ils disent non. Et là, première frustration. Et là, tiens, c'était génial, mais papa, il commence à me chauffer les oreilles un petit peu. Je sens les problèmes arriver. Ça roule? Alors, on sait que les enfants, ils connaissent ça, hein. Hein, ils connaissent... moi, j'appelle ça les stages. Tu vas venir en stage. Je dis maintenant, c'est le stage. Tu vas venir en formation. Il y a un problème d'éducation, on va régler ça. Et ça, ils n'aiment pas les enfants, d'accord? Et alors, on apprend à se découvrir. Ensuite, on a nos premières déceptions. On a nos grandes joies. On sait ce qu'on aime. Et puis, on apprend à se connaître. Et toute la vie, on va apprendre à se connaître de mieux en mieux. Ça roule? Toujours? Vous me suivez? Et finalement, c'est les circonstances de la vie qui nous aident à nous connaître le mieux possible, en fonction de nos réactions, de ce qu'on va vivre. Alors, la suite. J'aimerais vous faire une comparaison maintenant, et on va aller voir deux exemples bibliques, d'accord, de personnes qui n'ont pas gardé leur cœur, et voir un peu ce qui s'est passé. Alors, vous savez que dans l'Église primitive, il s'est passé beaucoup de choses. Et pour nous, aujourd'hui, l'Église primitive, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Jésus est arrivé, voilà, on ne va pas refaire toute l'histoire de Jésus, pourquoi il est venu, machin. On sait tout ça. Et pour nous, l'Église primitive, quand on lit Actes des Apôtres, c'est le commencement. Il se passe quelque chose. Et c'est le commencement de quoi ? C'est le commencement du début, quand le souffle de Dieu va venir instituer quelque chose, le Saint-Esprit, il va avoir le souffle qui va amener quelque chose de nouveau. Et c'est totalement un parallèle avec ce qui se passe dans l'Éden. Dans l'Éden, il y a le chaos, la terre est informe et vide, et là vous avez le Seigneur qui parle, et on dit qu'il amène le souffle de vie, et c'est le souffle de Dieu qui amène la vie. D'accord ? Et là, boum, 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 tout se met en place, tout se structure, il y a un ordre établi par Dieu, et les choses fonctionnent bien. Vous avez Adam qui vit un moment de solitude, Dieu il lui amène Ève. Et puis ensuite, tout est magnifique, tout est génial, tout est parfait, tout est idéal. Et là, les problèmes arrivent. Il y a une désobéissance. Et suite à cette désobéissance, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a une perte de cette relation avec Dieu, on casse l'alliance. Vous me suivez toujours ? On casse l'alliance. Mais quelque part, c'est ce qui a permis à l'Éden de grandir. On serait peut-être toujours en Éden, d'accord ? Et là, hop, déploiement. Et là, les épreuves commencent. La vie devient difficile. C'est plus si idéal que ça. Et finalement, la vie avec Dieu va se... Notre relation avec Dieu, à partir de là, va être basée sur la fidélité et la bonté de Dieu. Parce qu'on se constate que l'homme a fauté. L'homme a chuté. Et on constate que le cœur de l'homme, dès le début, il y a la désobéissance. Et ça fait des siècles que c'est comme ça, il n'y a rien de nouveau. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Des siècles passent, église primitive, tout est merveilleux. Vous arrivez en Actes chapitre 4, il y a un feu chez les premiers disciples. Ils partagent tout, il y a une harmonie entre eux. On vend nos biens, on dépose tout, on dit mais faites du bien aux autres, le Saint-Esprit fait des choses merveilleuses. Et là, on va lire ce qui se passe. Et là, il va y avoir à nouveau le commencement qui est idéal, et il va y avoir une rupture. Et cette rupture, on va la lire un chapitre plus tard. Ça aura duré un chapitre. L'idéal de Dieu pour l'Église primitive aura duré un chapitre. Parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. On arrive en Actes chapitre 5, versets 1 à 5. Désolé, je vais vite. Alors, on connaît tous cette histoire, hein. Ça va ? Alors, ici. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Jusque-là, tout va bien. Ils font ce que tout le monde fait. Ils sont investis d'une bonne intention. Et garda une partie du prix. Qu'est-ce qui se passe ? Le mec, il s'est dit, je vais garder un peu dans ma poche. Il faut penser à la famille, il faut penser à l'héritage, il faut penser aux générations futures. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Et là, Pierre, rempli de discernement, il va dire, et Pierre, souvenez-vous de ce Pierre-là, d'accord ? On va en reparler de notre ami Pierre. Mais Pierre, il n'en est pas arrivé là facilement. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton quoi ? Ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et garder une partie du champ, le prix du champ. Ouais. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Et là, il va lui poser cette question, elle est forte cette question. Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Qui a formé ce projet-là ? Ce n'est pas le voisin, c'est lui. Et là, pourquoi as-tu formé un projet comme celui-là ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Oh là là ! Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. À partir de ce moment-là, aujourd'hui, en 2020, on est le combien là ? On est le 2 août. Si je disais, les gars, on revient à l'état de l'église primitive, vendez tous vos baraques, vos bagnoles, soldez vos prêts, et on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous allez me dire, mais t'es complètement fou. Et moi, je vais dire, mais c'est la parole de Dieu. Sachez qu'aujourd'hui, on est incapable de vivre comme Ananias et Saphira. On est incapable de vivre comme ils ont vécu au chapitre 4. Parce que ce jour-là, au moment où il s'est passé ça, l'alliance est cassée. Et on n'est plus capable de vivre comme eux. Il y a l'égoïsme dans nos cœurs. Et on peut dire ce qu'on veut. On en est tous investis. On pense d'abord à nous. Et après, peut-être, si on a le temps, à l'œuvre de Dieu. Et pourtant, Dieu reste bon et fidèle envers nous. et il continue de travailler avec nous. C'est ce que mon père aime prêcher. Dieu travaille avec nous. À nouveau, relation basée sur la fidélité et la bonté de Dieu envers l'homme. Il nous abandonne jamais. Mais on a perdu quelque chose. Et il faut en être conscient. Alors, sacré Ananias, hein. Merci. Mais si ça avait été moi, j'aurais fait la même chose. Si ça avait été toi, t'aurais fait la même chose. Parce que le cœur de l'homme, c'est toujours le même. Et Salomon, il avait bien compris ça, il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est dans ton cœur que les projets de Dieu se forment, c'est dans ton cœur que les projets du malin se forment aussi. Et il faut que tu saches faire le tri entre ta propre volonté, tes intentions personnelles, ce que toi tu désires et la volonté de Dieu. Et ça, c'est totalement différent. Et il faut que tu gardes ça, il faut rester clean, il faut rester... vous savez, quand on a l'esprit, vraiment, j'ai pas le mot, mais voilà, c'est clair, on sait prendre des décisions. Parce que c'est lucide, il faut rester lucide. Il faut pas être pris par trop de choses parce que t'arrives plus à déterminer, mais Seigneur, c'est peut-être toi, et puis après on a des discours, mais Seigneur, tu ouvres la porte, tu fermes la porte, on sait plus quoi. On sait plus quand c'est Dieu ou quand c'est pas Dieu. Et puis on a un petit frisson, et c'était le Saint-Esprit, et puis... Vous voyez ce que je veux dire? On se perd dans tout ce monde un peu charismatique. Mais la première chose, c'est de garder mon cœur. Parce que quand je garde mon cœur, il se passe quelque chose. Mais comment garder notre cœur? Et là, on revient en Proverbe, verset 21. Comment? Et c'est dans le Proverbe 21, c'est Proverbe 4, verset 21 qui va nous le dire. Ça va être qui ne se... Proverbe 20, pardon, on s'en dit, oh là là, je me trompe. Mon fils, sois attentif à quoi ? À mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Il faut garder la parole de Dieu dans notre cœur. Il faut garder les commandements de Dieu pour notre vie. Alors, quel est le premier des commandements ? Il y a un pharisien qui est venu voir Jésus et a dit, Jésus ! C'est quoi le plus grand des commandements ? Matthieu 16, versets 21 à 23. Et Jésus a été très clair. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Okay. Alors Pierre, c'est pas celui-là. Voilà, Jésus lui répondit, tu aimeras qui ? Le Seigneur de tout ton, de tout ta on, et de tout ta. Mais là, il y a une différence avec Proverbe, parce que vous voyez le petit mot ici, cœur. Voyez, vous le voyez là, hein ? C'est O-E-U-R qui était le même en Proverbe. Eh bien, en fait, le cœur qui est ici, eh bien, dans Proverbe, c'est ça. Il y a un ingrédient en plus. C'est que là, au niveau cœur, on parle de l'esprit de l'homme. On ne parle plus de l'âme de l'homme. C'est-à-dire, Seigneur, dans mon âme, je décide un jour que tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, vous avez la révélation, tout ce que vous voulez. Et vous décidez, dans votre fort intérieur, c'est une décision, Seigneur, je te servirai. Et là, qu'est-ce qui se passe ? L'esprit de Christ, il fait quoi ? Il vient vivre en toi ? Et ton esprit à toi, il s'ouvre. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu peux avoir cette relation directe avec le Père. Et c'est incroyable. Et là, c'est maintenant ton esprit qui va être le chef de ton âme et de ton corps. Et quand tu en es conscient, eh bien, et que tu vas prendre des décisions, tu pries, tu as la prière, tu as tout ce qu'il faut, hein, on a toutes les armes pour aller devant Dieu. Et on dit, Seigneur, est-ce que mon intention est correcte devant toi ? J'aimerais que tu l'éprouves. Parce que je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas me tromper. Et là, vous passez de quoi ? De l'âme à l'esprit. C'est-à-dire que quand vous priez comme ça, vous soumettez votre volonté à la volonté de Dieu. Et vous devenez attentif, réceptif à ce que Dieu veut vous dire. Mais si tu es buté, tu es borné, tu as décidé, c'est comme ça, eh ben, tu n'es pas disposé. Et là, tu vas tomber. Vous comprenez l'idée ? Donc notre esprit s'ouvre. Et là, Jésus, il dit quoi? Il dit, tu aimeras l'amour. Tu aimeras ton Dieu parce qu'il sera le premier. Vous vous souvenez de la prêche de Fred? Capitaine, ô mon capitaine, capitaine, ô capitaine, c'est ça? Où il nous disait, c'est qui le capitaine? Hein, ça doit être Dieu. Mais moi, je suis le chef de mon bateau. C'est moi qui décide de jeter l'ancre. C'est moi qui fais ramer ceux qui sont dans la galère. Et puis, je suis le chef de mon bateau. Mais c'est qui le capitaine qui donne le cap? C'est Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit être sensible à ça. Et on va voir maintenant, plus loin. Papapam, qu'est-ce que je t'ai donné, Sandy? Ah oui, donc maintenant, c'est Matthieu 16. Pardon, Sandy. Excuse-moi. Dès ce moment, Jésus... Donc là, on est... on va lire, vous allez voir. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrirent de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Attends, remets le verset, Sandy, parce que je lis mal. Là. Oui, donc dès ce moment, c'est au moment où Jésus va annoncer, il va dire, les gars, il arrive un temps où je vais devoir mourir et je ressusciterai. Donc il annonce. Il le sait, c'est la volonté de Dieu. Il vient voir ses disciples, ceux qui marchent avec lui. Et il commence à leur dire, les gars, préparez-vous, préparez-vous, préparez votre cœur. Quelque part, ils préparent leur cœur. Je vais partir. Je vais mourir, je vais souffrir. Ça va être dur pour vous et pour moi. Mais il ne parle pas pour lui, il parle pour eux. Il essaie de les préparer. Donc, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part. Qu'est-ce qu'il fait Pierre? Vous imaginez, vous êtes avec Jésus. Et là vous dites, Jésus vient un peu avec là, on va discuter, ça va pas ce que tu dis. Je suis pas d'accord avec ta doctrine, je suis pas d'accord avec ce que tu racontes, on est très bien comme ça, ça fonctionne bien, on est une bonne équipe, tu restes là. Le mec, il a du culot hein, de parler comme ça à Jésus. Hein. Alors, Pierre le prit à part. C'est ça que j'aime bien. Pierre le prit à part. Le mec, il se permet de prendre à part Jésus. Hein, Jésus, il est demandé, les foules courent après lui, mais lui, il le prend à part pour l'enseigner. Jésus, je vais t'enseigner. Parce que tu sais, je pense que tu te trompes. Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Wow. Wilfried, toi, tu reprends Jésus une fois de temps en temps? Moi, je vous avoue qu'une fois de temps en temps, je reprends Jésus. Je dis, Seigneur, ma vie, ça va pas là. Je suis pas content, ça va pas comme je veux. Fais quelque chose! Je lui parle comme ça, hein, des fois. Et ça marche pas comme ça avec Jésus. Hein. Et là, Jésus lui dit, que Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Il prophétise et tout! C'est un truc de dingue, Pierre. Pierre, il s'est emballé. Vous voyez, tout était beau avec Jésus. C'était le commencement. Il chassait les démons, il prophétisait, il marchait, son homme guérissait tout le monde. Et il pense que il est sur une bonne phase, là. Vous voyez? C'est quand on se convertit, ça. On est en feu. Et puis là, qu'est-ce que va lui dire Jésus? Arrière, Satan! Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées, ici, on parle de l'âme, encore une fois. On parle du cœur de l'homme intérieur. Un homme qui a vécu des choses avec Jésus. On aimerait tous passer une minute, on passe du temps avec lui dans la présence de Dieu, mais en tant qu'homme, moi, j'aurais aimé être à côté de lui, voir à quoi il ressemblait, comment il agissait, c'était quoi ses gestes, comment il reprenait les gens, comment il manifestait son amour, de quelle manière manifestait-il sa compassion. Eux, ils ont vu tout ça de leurs yeux. Et Jésus lui répond, arrière de moi, Satan. Alors, c'est ce que je vous disais. Hein. Nous, aujourd'hui, on dirait, Jésus, quel manque d'amour. Franchement, comment tu réponds? Toi, le roi des rois, arrière de moi, Satan. On est comme ça, nous. Non, mais il faut être sincère. On est comme ça. On fonctionne comme ça. Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et là, j'imagine Pierre qui, franchement, il devait être dépité, Pierre. Il devait être cassé. Il s'est dit, je ne vais plus dans cette église. On m'a dit un truc trop dur. Pas pour moi, l'église. Je reste à ma maison. Mais c'est comme ça qu'on réagit. Franchement, qui n'a jamais été frustré? On est tous frustrés. La parole de Dieu nous frustre. On l'aime, mais elle nous frustre. Moi, chaque fois que je la lis, j'ai une frustration. Je dis, Seigneur, je ne suis pas encore comme ça, là. Ah là 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 là. Alors, il y a un chant qu'on apprend aux enfants et que je chante depuis longtemps, que ma sœur m'a chanté, que ma mère m'a chanté, qui est tellement simple et pourtant tellement vrai. C'est toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui veut toute la place. Non, 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 mon cœur il est fermé. Ensuite c'est toc, 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 les enfants, quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 mon cœur il est ouvert. Alors dès qu'ils sont petits, on leur chante ça. Pour qu'ils comprennent que c'est à eux de protéger leur cœur. Et c'est pas papa, maman qui vont toujours le faire pour eux. Au début, on fait le maximum. Mais ils vont être confrontés à des choses où leur cœur leur appartient. Et moi, je vous pose la question, ce matin, quel est le domaine dans ta vie où, quelque part, tu n'as pas protégé ton cœur et où tu as une mauvaise pensée, une mauvaise réflexion, une mauvaise doctrine, un truc qui ne correspond pas avec la volonté de Dieu. Et tu te bats avec Dieu tout le temps. « Mais Seigneur, c'est comme ça !» Nous, les Français, on aime bien le débat. On débat avec Jésus. Hein. On est fort, hein, nous. On sort les versets à Jésus. Hein. C'est ça qui est fort. « Mais attends, tu dis ça, là !» Ouais, et là, il te dit, mais attends, je dis ça aussi là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et on se bat souvent, on est tous comme ça. Franchement, qui n'est pas comme ça? Il y a quelqu'un qui n'est pas comme ça? À part Thierry là-bas, parce que lui... Hein? Non, mais on est tous comme ça. Mais à un moment donné, on se soumet, et c'est là qu'on ne perd pas de temps. Parce qu'Ananias et Saphira, ils sont passés à côté. Et parce que parfois, on perd du temps avec nos petites guerres avec Jésus. « Non, mais Jésus, j'aimerais ressentir ta présence, tu comprends, tant que je ne sens pas ta présence, bah, en fait, je ne peux pas avancer. Moi, j'ai besoin que tu me caresses, j'ai besoin que tu me consoles, Jésus. » Mais tout est déjà donné, les gars. Jésus a souffert, il a dressé la table, c'était notre dernière leçon des fondamentaux, hein, Amélie. Tout est là, et nous, on discute encore. Mais Seigneur, les promesses pour ma vie, tu comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est qui doit entretenir son jardin? C'est moi. En ce moment, on plante des patates, des courgettes. Parce qu'on a vu le Covid, ça nous fait peur. Mais Satan, il a toujours été là. Donc, il faut continuer de planter des patates, des courgettes dans notre cœur. Parce que comme ça, je peux partager au voisin qui, lui, il est branché fast-food. Tu comprends? Lui, c'est Burger King, c'est McDonald's, alors il faut lui donner une bonne courgette. Il ne va pas aimer au début la courgette parce que ce n'est pas top, ce n'est pas gras. Mais à un moment donné, il va voir, il va commencer à dégraisser. Et il va dire, mais waouh ! Mais non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est important. Et il faut qu'on se pose ces questions. Et à un moment donné, vous voyez, on a parlé dans Actes, au verset 5, c'était le même Pierre à qui Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ». Ce même Pierre-là qui va regarder Ananias et Saphira et qui a le discernement, là, direct. Ce que tu fais, c'est pas bon. C'est peut-être juste, c'est peut-être une bonne intention, peut-être que tu as les meilleures intentions du monde, mais c'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Boum ! C'est plus le même homme. C'est plus le même homme. En quelques chapitres, c'est plus le même homme. Il est transformé. Et la semaine passée, papa a parlé du verset. C'est Romains 12. On va le relire. Très important. Il m'interpelle toujours. Je te l'avais donné, celui-là, Sandy, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, on parle de l'âme, d'accord? Afin de discerner, afin de voir ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça, c'est notre première mission. Avant de faire quoi que ce soit, c'est m'occuper de moi. Parce que quand j'aurai le discernement, là, je vais devenir actif efficace pour Dieu. Là, je vais être capable de regarder quelqu'un droit dans les yeux avec conviction, avec plein d'amour et lui dire, là, tu te trompes. Et là, la personne, elle pourra avancer. Parce que ce ne sera pas juste, bah, t'es pas bien et puis t'inquiète pas, je suis avec toi. Ce sera pas juste. On passe du social à vraiment la parole de Dieu qui transforme une vie. Et là, on a même des choses qui sont empreintes de vie pour l'âme. Et quand l'âme de la personne en face de nous s'éveille à l'esprit de Dieu, à son propre esprit, et ben après, elle est en relation directe avec son Créateur et ça roule. Vous me suivez ? Ça va ? Alors, il est quelle heure ? J'espère que j'étais assez vite. Parce que moi, quand je m'emballe, on arrête à quelle heure ? 30 ? Ouais, c'est beau ça. Ouais, c'est bien, 25. Donc, on va s'arrêter là. Antonia, tu peux revenir. Équipe de louange, s'il vous plaît. Et on va prier un petit peu. En même temps, on va chercher les profondeurs de notre cœur. On va pas chercher Dieu, c'est bizarre. Hein, on va sonder les profondeurs de notre cœur. On va dire, Seigneur, il y a des choses qui vous préoccupent. On est tous préoccupés par quelque chose à l'instant même. Et vous savez ce qui vous préoccupe maintenant. Et on va prier, on va dire, Seigneur, ça me préoccupe. J'ai des décisions à prendre. J'ai des positions à prendre. Et je veux que ce soit selon ta volonté. Même si c'est fou aux yeux des hommes, tant que c'est selon ta volonté, je suis sécure. Ça marche ?